Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, vivre avec le virus, eh bien devons-nous ralentir ou accélérer avec ce virus? Pendant 2 mois, ce qui paraissait impossible est soudain advenu, tandis que certains partaient au travail avec angoisse et dans un contexte extrêmement tendu, beaucoup ont vu leur rythme de travail ralentir. Le philosophe Hartmut Rosa, qui avait analysé l'accélération dans laquelle nos sociétés étaient empêtrées, a même salué la capacité que les hommes ont eue à arrêter le monde pour sauver des vies. Les mesures sanitaires que nous connaissons depuis le déconfinement nous font accepter aujourd'hui de faire la queue pour entrer dans les magasins, de prendre rendez-vous pour se faire coiffer là où il était habituel d'aller sans rendez-vous. Mais ce ralentissement s'accompagne d'une accélération de nos consommations numériques, du télétravail qui, quand il n'est pas encadré, étire le temps de travail plus tôt vers le petit matin et plus tard vers le grand soir. Voilà donc le thème de cette émission avec nos 3 invités aujourd'hui. Myriam Revaud-Dallon, elle est philosophe, professeure émérite à l'École pratique des hautes études et chercheuse associée au Centre de recherche de Sciences Po, le CVPOF. Elle est auteure de La faiblesse du vrai, c'était au Seuil en 2018, mais aussi de La crise sans fin, c'était en 2012, toujours au Seuil. Nicolas Bouzou est également avec nous, il est économiste et essayiste, il est auteur du Travail et l'avenir de l'homme, de La comédie inhumaine avec Julia de Funès, et puis plus récemment, c'était au tout début de ce confinement, Inventons la mondialisation de demain dans une petite collection et après aux éditions de l'Observatoire. Il est directeur du cabinet de conseil Asterès. Et puis Hélène Leuillet est avec nous, elle est maître de conférence HDR en philosophie, psychanalyste. Elle est autrice de L'éloge du retard chez Alma Michel, c'était en 2020. Et quand je dis c'était en 2020, c'était juste avant cette crise que nous avons connue. Bonsoir Hélène Leuillet, bonsoir à vous Myriam Revaud-Dallon également, et bonsoir Nicolas Bouzou. Hélène Leuillet, quand vous travaillez sur cette question du retard, vous ne travaillez pas forcément sur cet étirement du temps que nous connaissons depuis ce moment du confinement et un peu moins peut-être depuis le déconfinement il y a 10 jours maintenant.
Non, effectivement, ce retard, d'abord que grand retard que nous avons tous pris, il nous a mis dans une situation un petit peu étrange, parce que je pense que tout le monde était sous pression et que d'un seul coup tout s'est arrêté. Avec, vous savez, ce sentiment qu'ont les collégiens quand un prof est absent et qu'ils disent ouf, et puis après ils se rendent compte que peut-être c'était grave. Et je crois qu'il y a eu d'abord une forme de soulagement à ce retard que nous avons tous pris, et comme l'a exprimé Rosa, vous avez cité là au début de l'émission, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait ne pas pouvoir arrêter, cette hantise que nous avions d'être en permanence en retard, d'avoir tout le temps le nez dans le guidon, d'avoir toujours des tâches à réaliser qui étaient pour hier ou avant-hier ou davantage, eh bien en fait, ça pouvait s'arrêter.
Oui, nous pouvons arrêter le monde, a-t-il écrit dans AOC, et c'est même très facile, c'est nous et non le virus qui l'avons fait.
Exactement. Bon, enfin, il a quand même fallu ce petit virus microscopique quand même pour nous y contraindre.
Mais ce sont les dirigeants qui ont décidé d'arrêter le monde, d'une certaine façon, devant ce virus, justement.
Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, on peut se rendre compte que le retard n'est pas si grave que ça. Alors que, bien entendu, il va y avoir des choses à faire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Il y a des choses qui sont graves, mais que c'est pas forcément le retard qui est grave. Oui. Et que peut-être la question du temps, elle se pose pas tellement en termes de lenteur, rapidité, mais peut-être en termes justement de ces scansions qui nous permettent de pas trop nous sentir sous pression.
Oui.
Et ça, voilà. Bon, on va en discuter peut-être.
Oui, bien sûr, on va en discuter. Myriam Revaud-Dallon, vous êtes également philosophe. Vous avez travaillé dans ce livre qui date de 2012 sur la crise sans fin, sur cette crise que vous n'imaginiez pas, j'imagine, arriver de la manière dont elle est arrivée dans nos sociétés, cette crise que nous connaissons. Mais vous avez parlé de la façon dont on envisageait la crise. Et vous aviez cité Paul Virilio, grand spécialiste philosophe de la vitesse et urbaniste, sur l'immobilité fulgurante de la société, l'inertie d'une société qui était à la fois figée et frénétique. Est-ce que c'est ce qui nous est apparu, cette société à la fois figée et frénétique ?
Oui et non, parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est pas tellement au fond une lenteur par rapport à une forme d'accélération paradoxale que nous connaissions depuis un certain temps, que l'époque contemporaine connaît et que précisément Rosa avait décrit comme immobilité fulgurante. Mm-hmm. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la démultiplication ou la fragmentation des temporalités. Parce que je ne crois pas qu'on puisse parler de simplement de lenteur, de retard ou de vitesse ou d'accélération, mm-hmm. tellement tout cela est totalement désynchronisé. Mm-hmm. C'est un petit peu, ça rejoint exactement le même problème que lorsqu'on parle de la vie d'avant ou de la vie d'après, mm-hmm. du monde d'avant ou du monde d'après, comme si, au fond, tout ça se situait sur une ligne, comme si on faisait référence à quelque chose qui était de l'ordre de la chronologie, alors qu'en réalité, les choses sont bien plus éclatées. Et moi, je ne suis pas sûre. Bien sûr que les choses se sont ralenties, elles se sont arrêtées, mais je ne suis pas du tout sûre que les subjectivités, pendant le confinement, aient travaillé tous au même rythme. Mmh.
C'est sûr que quand on était dans un service d'urgence d'un hôpital touché par le Covid, eh bien, on n'était évidemment pas dans le même rythme que quelqu'un qui était confiné chez soi.
Absolument. Et donc la manière de vivre la temporalité était extrêmement différente selon que on s'occupait des enfants, qu'on était prof et qu'on faisait de l'enseignement à distance à l'hôpital, ou bien que on était confiné chez soi, non pas forcément à ne rien faire, mais dans des conditions qui étaient extrêmement différentes. Donc au fond, ce qu'on a retrouvé dans cette expérience, c'est une accélération de la fragmentation des temporalités.
Et donc de sociétés qui étaient plus éclatées au niveau de leur gestion du temps qu'on pouvait le penser.
Encore plus éclatées. Et je ne suis pas sûre que, au fond, ce qu'on a souvent considéré comme un éloge ou comme un retour à la lenteur soit véritablement quelque chose d'uniforme ou quelque chose d'univoque. Mmh.
Nicolas Bouzou, vous qui êtes économiste et qui avez publié en pleine crise du coronavirus, donc dans une collection qui se veut justement une réflexion sur l'après, et la collection Et après de l'Observatoire Inventons la mondialisation de demain. Vous êtes un économiste, vous êtes libéral et vous le proclamez haut et fort, mais vous n'êtes pas néolibéral, dites-vous. Est-ce que ce qui peut-être a conduit à nous surprendre, ça n'est peut-être pas la vitesse de nos réactions, mais c'est la vitesse de la propagation de ce virus? Vous dites dans ce petit texte que vous avez publié à l'Observatoire combien la lenteur de la propagation, par exemple, des pestes et leur retour cyclique était quelque chose qui était compréhensible par les sociétés plus anciennes, et que là, voilà un virus qui s'est propagé dans le monde en quelques semaines depuis la Chine jusque l'ensemble du monde.
Et oui, c'est ça la grande nouveauté. Hein. La nouveauté de cette épidémie, c'est pas l'épidémie en elle-même, puisque les épidémies ont toujours existé et elles ont toujours voyagé, parce que la mondialisation n'est pas du tout un phénomène récent. C'est quelque chose qui a à minima plusieurs milliers d'années. Et en réalité, si on y réfléchit en profondeur, on pourrait même faire remonter ça à avant l'ère néolithique. Donc, c'est ni les épidémies ni la mondialisation ne sont des nouveautés. Ce qui est nouveau, vous avez tout à fait raison, c'est la vitesse de propagation qui est liée un facteur technologique tout simple, hein, qui est le fait que nous nous déplaçons extrêmement rapidement dans le monde aujourd'hui et que vous pouvez vous rendre en 24 heures au sud du Chili, en moins de 24 heures au sud du Chili, c'est-à-dire à l'un des points qui est le plus éloigné de la France. Et donc vous avez énormément de facilité de déplacement, beaucoup de gens qui se déplacent. Et
beaucoup
donc,
moins maintenant, là. Pour l'instant, c'est un peu arrêté.
Je parle bien évidemment de ce qui a mené à la propagation bien de cette sûr. Épidémie, pas maintenant évidemment. Et donc c'est ça qui a donné ce sentiment de vitesse, et vous avez tout à fait raison de dire que du coup le sentiment d'arrêt n'en est que plus fort, puisque le transport aérien, qui est en fait le responsable de la propagation du virus, eh bien le transport aérien, encore aujourd'hui, il fonctionne dans les pays développés à peu près 5% de ses capacités normales. Donc vous avez un contraste extrêmement saisissant entre la vitesse de nos déplacements avant la crise et l'arrêt quasi totale, alors plus encore pendant le confinement, de nos déplacements après la crise. Mais ça, c'est pour les facteurs objectifs, parce que du point de vue subjectif, dans l'esprit de nos concitoyens, je ne pense pas que l'on doive assimiler cette crise à un ralentissement, surtout un ralentissement pensé sur un mode volontaire et positif. Je pense que pour la plupart de nos concitoyens, et c'est aussi la façon dont je l'ai vécu à titre personnel, ce qui s'est passé
est une véritable
catastrophe.
C'est une punition.
Bouleversante, avec des coûts, notamment psychologiques, qui sont très importants.
Oui, vous citez Clément Rosset dans Loin de moi, qui disait « La connaissance de soi, c'est à la fois inutile et inappétissante, qui souvent s'examine, n'avance guère dans la connaissance de lui-même, et moins on se connaît, mieux on se porte. » Alors évidemment, c'est une citation de Clément Rosset, mais vous considérez effectivement que cet arrêt qui n'était pas volontaire, et peut-être qu'il peut y avoir de pire, justement, pour le libéral que vous êtes, qui considère au contraire que le voyage, le tourisme, tout ça, ça fait grandir. Évidemment, là, on est bloqué.
Oui, alors c'est vraiment un débat philosophique qui est très intéressant, et au fond, il est impossible de trancher, parce que ce sont des choix qui nous sont individuels. Et d'ailleurs, en tant que libéral, je suis très attaché à ce que ceux qui veulent accélérer puissent accélérer, et à ce que ceux qui veulent ralentir puissent ralentir. Mais c'est vrai que cette idée qui consiste à dire que cette période de confinement était quelque chose de positif, parce que ça nous oblige à nous tourner vers nous-mêmes, je pense que c'est une idée qui est extrêmement contestable, puisqu'il me semble que la grandeur de l'humain, au contraire, c'est de sortir de lui-même, c'est de se décentrer. Et d'ailleurs, c'est à ça que doit servir le voyage. Alors le voyage, quand il est bien fait, hein, bien évidemment pas le tourisme de masse dont certains aspects nous font horreur, mais l'idée d'aller vers l'autre, de se mettre dans une position d'inconfort, de sortir de chez soi, au fond, je pense que c'est quelque chose qui nous humanise. Et c'est un peu ce que veut dire Clément Rosset. Alors, c'est facile de citer Clément Rosset parce qu'il a une prose qui est extrêmement drôle et synthétique et concise. Et ce livre qui s'appelle Loin de moi, si je crois, est un tout petit livre qui doit faire 60 pages et qui est extrêmement plaisant. Mais ce qu'explique Clément Rosset, je pense que son idée est absolument grandiose, c'est que en effet, qu'est-ce qu'il y a de moins intéressant que soi? Enfin, je veux dire, les autres sont quand même beaucoup plus intéressants, et soi-même n'est pas très intéressant. Et en plus, c'est sans doute inopérant, parce que il est même pas certain. Et là, Clément Rosset se situe dans la tradition pascalienne. Il est même pas certain, de toute façon, qu'on puisse se connaître.
Oui, Hélène Leuillet, quelque chose qui est très frappant, c'est d'abord effectivement la façon dont on a été obligé de s'arrêter. Vous l'avez dit dès le début de cette émission. Ce qui est frappant, c'est que vous ayez publié cet éloge du retard en même temps qu'un autre livre de Laurent Vidal qui s'intitule « Les hommes lents, résister à la modernité », que d'une certaine façon, pas de même manière, mais vous dites une chose, c'est le retard pour vous, la lenteur pour Laurent Vidal, ce sont des façons que nous avons trouvées pour pouvoir justement résister à cette accélération du temps, et donc faire en sorte que nous soyons encore libres de notre temps dans un contexte où on nous oblige.
Absolument. C'est vrai qu'on a souvent été invités ensemble avec Laurent Vidal, qui d'ailleurs fait pas non plus forcément un éloge de la lenteur. Hein.
Non. C'est un
constat, et puis de pas stigmatiser l'élan. Et moi, je suis assez d'accord avec Nicolas Bouzou, on ne va pas non plus stigmatiser les rapides. Je veux dire, la question, elle n'est ni de stigmatiser l'un ou l'autre, hein, mais c'est vrai que ce qui m'a paru subversif dans le retard, hein, c'est que c'est cette petite marge de liberté qu'on s'accorde, hein, quand on est un peu trop sous pression, et qui souvent nous surprend nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, j'ai tout fait bien, et oh, je suis en retard. Et que, au lieu d'être culpabilisé, comme on dit, d'être dans cette hantise, il y a là quelque chose qui peut nous ramener à notre propre expérience du temps. Parce que ce qui me frappe, c'est que justement, la question, c'est pas tellement de savoir si on va vite ou pas, c'est l'expérience qu'on a du temps. Et là, je dirais peut-être, je rejoindrai un peu ce qu'a dit Myriam Revaud-Allonne, quoi qu'en le prenant d'une autre manière, c'est-à-dire c'est bien sûr qu'il y a des rapports fragmentés, mais c'est surtout que le rapport au temps, il est extrêmement divers. Moi, je dirais que c'est peut-être ce que je connais de plus différent d'un sujet à l'autre. J'ai bien dit d'un sujet à l'autre, pas d'un moi, hein, mais que c'est quelque chose d'extrêmement divers. Et alors, donc là, il y a eu bien sûr les grandes catégories qu'on peut faire, qu'on a rappelées, hein, ceux qui ont travaillé, les métiers de l'urgence, les métiers qui étaient en burn-out en chambre, ceux qui se sont ennuyés parce que tout s'était arrêté. Bref, il y a eu des expériences comme ça qu'on peut généraliser, mais à l'intérieur même de ces grandes catégories, il y a eu des façons très diverses de vivre. Et puis surtout, il n'y a pas eu le temps du confinement. Il y a eu le début du confinement, le milieu du confinement. Il y a même des gens qui m'ont parlé de la crise du 1er mai et la fin du confinement et la préparation à la fin du confinement. Et tout ça a donné des expériences temporelles très diverses qui montrent que le retard, ça fait partie de ces expériences qui nous permettent de renouer avec notre temporalité subjective. Bon, et là, peut-être que je peux très vite peut-être dissiper un malentendu. Il ne s'agit pas de soi contre les autres, parce que, alors là, en tout cas, pour la psychanalyste que je suis, il n'y a pas de différence entre soi et les autres, puisque ce qu'on trouve en soi, quand on s'intéresse à soi, c'est d'abord de l'altérité. Alors, cette différence entre soi et les autres, elle vaut au niveau peut-être sociologique, économique, mais pas au niveau subjectif, hein, puisque... Voilà, on est toujours autre que soi, et faire l'expérience de soi, c'est justement faire l'expérience de l'altérité. Il n'y a pas de bulle, hein, contrairement à ce qu'on a pu entendre dire, hein, aujourd'hui. Donc voilà en quoi le retard peut être subversif, hein, parce que il nous oblige à faire une expérience, tandis que c'est très facile de perdre le temps, d'oublier le temps, dans l'ennui, dans la pression, dans la vitesse ou dans la lenteur. Bref, c'est très facile de le perdre, alors que bon, c'est quand même la seule chose qu'on a.
Alors que nous étions tous arrêtés, Myriam Revaud-Allonne, alors que nous lisions les journaux, nous écoutions les nouvelles, etc., je faisais, puisque l'émission était arrêtée, la revue de presse des idées pour le site de France Culture, et la troisième ou la deuxième revue de presse des idées, c'était le 25 mars, j'avais consacré à envisager déjà les sorties. Nous étions à peine entrés dans la question du confinement que déjà des intellectuels et des écrivains envisageaient déjà la sortie. Est-ce qu'on n'a pas brûlé les étapes pendant ce temps-là, puisque vous disiez tout à l'heure, on a parlé déjà du monde d'après alors qu'on était encore en pleine crise, Myriam Revaud-Allonne?
Oui, oui, moi j'ai été extrêmement frappée aussi, alors pas simplement par une anticipation un peu prématurée du monde d'après, mais j'ai été très frappée par le nombre d'interventions qui, au fond, ramenaient l'irruption de l'événement à quelque chose qui était déjà connu. Comme si, au fond, l'événement, voilà, la crise ou l'inattendu, ou au fond, ce maximum d'incertitude auquel nous étions confrontés, parce que moi, c'est plutôt sous cet angle-là que j'ai vécu, que j'ai abordé, que j'ai réfléchi sur l'événement plutôt que sur l'angle du retard ou de la lenteur ou de l'accélération sur un axe comme si cet axe était linéaire.
Bien sûr.
C'est exactement ce que, au fond, sous-entend l'expression monde d'avant, vie d'avant, vie d'après, etc. Et j'ai été extrêmement frappée par par la fabrication les fabrications diverses et variées de toutes les petites certitudes qui pouvaient nous permettre
de tenir
que nous pouvions bricoler pour faire face à une incertitude absolument massive. Comme si, au fond, il faudrait quand même rappeler qu'un événement, parce que je pense que la crise du Covid, qui n'a pas été simplement une crise sanitaire, mais une crise politique, sociale, écologique, enfin, combien cet événement, c'est quelque chose qui fait irruption et qui n'est absolument pas réductible à des causalités antécédentes. Même si on peut expliquer un certain nombre de choses par des causes partielles.
Vous voulez dire une radicale nouveauté, c'est cela ?
Voilà, oui. Et en même temps, si on prend ça au sérieux, il faut quand même affronter l'idée, enfin en tout cas moi c'est ma position personnelle, moi je suis à l'heure actuelle incapable de me projeter d'une manière ou d'une autre, dans un futur préfiguré à l'avance, quel qu'il soit.
C'est amusant parce que c'est ce que vous écriviez dans la crise sans fin. En 2012, vous disiez « le temps est aujourd'hui sans promesse et le futur est incertain d'une certaine façon
oui, ».
C'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire, Myriam Revaud-Allonne.
D'une certaine façon, c'est pour ça que je dis, j'ai retrouvé, d'une certaine façon, porté à son paroxysme, à la faveur de cet événement qui est un événement totalement inattendu, un certain nombre, au fond, de données sur la fragmentation temporelle, sur ce qu'on pourrait appeler la détemporalisation, du contemporain et qui caractérise notre présent de la même manière, par exemple, que au fond, on pourrait très bien dire que cette lenteur ou que cette espèce de retard, il va de pair de manière paradoxale avec une espèce d'inflation terrifiante du présent.
Oui, le fameux présentisme tel qu'il a été décrit, par exemple, par l'historien François Hartog.
C'est-à-dire, en fait, là aussi, c'est une espèce de manière, au fond, de bricoler une façon de vivre, c'est-à-dire de se raccrocher à une manière de scander le temps avec des petits rituels, par exemple, à l'intérieur d'un présent qui est un présent qui a tout envahi. Puisque quand on dit le monde d'après ne sera plus le monde d'avant, ça veut dire que le passé s'est complètement estompé, et mais quant au futur, il est totalement infigurable.
Oui, et Nicolas Bouzou, justement, en tant que libéral, on pourrait se dire, tout compte fait, c'est un moment formidable, puisque tout est ouvert. On pourrait tout imaginer, on pourrait se dire, voilà, justement, les scénarios anciens ne fonctionnant plus, on va inventer un monde totalement nouveau qui serait non pas le calque du précédent, mais non pas le calque non plus de celui qui a précédé le précédent, mais quelque chose de très neuf.
Alors, je ne suis pas sûr, à titre personnel, d'adhérer à l'idée de vouloir un monde totalement nouveau, puisque dans le monde d'avant le Covid, il y avait un certain nombre de choses qui me plaisaient énormément.
Benjamin Constant, Tocqueville et les autres, c'est ça?
Absolument, complètement, qui d'ailleurs pour moi sont vraiment les bonnes références. C'est drôle ce que vous dites d'ailleurs, parce que je profite pour faire une petite parenthèse, mais dans cette situation qui, pour moi en tout cas, était très très difficile, alors que je l'ai passé dans de bonnes conditions, mais j'ai vraiment éprouvé le besoin de relire Tocqueville, Benjamin Constant, c'était d'essayer de retrouver...
S'il y avait quelqu'un qui avait pensé le monde d'avant avec l'ancien régime et la révolution, c'est bien Tocqueville, ça c'est sûr.
Mais c'est absolument extraordinaire, et dans les souvenirs de Tocqueville, tout ce qui porte sur la révolution de 1848 par exemple, me semble toujours d'une intelligence et des mots très importants pour notre temps. Mais pour répondre à votre question, je pense en tout cas, alors je vais la prendre de façon plus modeste, mais je pense que oui, sur une catastrophe, vous savez, c'est comme une catastrophe à titre personnel, quand vous perdez un être cher ou quand vous êtes frappé par une maladie grave. Je suis pas du tout dans une position doloriste, je considère pas que c'est bien en soi, mais je considère que on n'a pas d'autre choix que de faire face à ce type de catastrophe et à s'appuyer dessus pour construire des choses qui sont nouvelles, ou pour aller plus vite dans certaines choses qui allaient trop lentement. Pour le coup, je vous donne un exemple concret qui moi m'intéresse beaucoup, qui est la question du développement durable. Je pense que je suis pas favorable à l'analogie entre la crise du Covid et le dérèglement climatique, puisque je considère que d'un côté il y a une crise qui était subite, celle du Covid-19, et de l'autre un processus, le dérèglement climatique, qui vient de loin, qui est très bien étudié et dont les conséquences sont tout à fait prévisibles. Donc je pense qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes ressorts. Mais en revanche, et d'ailleurs ce que je fais est d'une certaine façon un peu malhonnête, je vous le dis entre nous, mais je m'appuie sur le traumatisme lié à la crise du Covid pour essayer de faire partager à mes concitoyens l'idée selon laquelle il faut absolument accélérer dans le domaine de la transition énergétique, de la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc je le prends comme prétexte pour essayer de contribuer à ce qui me semble, moi, être une amélioration du futur.
C'est bien de reconnaître qu'on peut être malhonnête pour pouvoir faire avancer sa cause, en l'occurrence.
Oui, mais enfin, c'est une malhonnêteté quand même qui est mise au service d'une noble cause. Enfin, j'espère en tout cas qu'un certain nombre de vos auditeurs le prendront comme tel.
Profite de Benjamin Biolay.
Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, des lycées, des bons, des courtes et des longs. Puisqu'il faut vraiment tout boire et tout finir pour ne pas mourir, trop plein de désirs, profite. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, dansons sur les tombes, corbeaux et colombes. essayer pour ne pas mourir, mourir éveillé. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie m'aime est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Profite de Benjamin Biolay avec Vanessa Paradis dans une émission du temps du débat consacrée à la question du ralentissement ou de l'accélération à l'issue de la crise du Covid ou de la Covid, selon que l'on l'appelle au masculin ou au féminin, avec trois intervenants, Myriam Revaud-Nalol, philosophe, Nicolas Bouzou, économiste et essayiste, et Hélène Leuillet, philosophe également et psychanalyste. Hélène Leuillet, David Grossman disait, il y aura peut-être, dans un texte qu'il a publié au tout début de cette crise, il y aura peut-être des personnes qui ne voudront pas revenir à leur vie antérieure, c'est-à-dire que le principe de la crise, c'est aussi que tout compte fait, on fait le point, on s'arrête et on se dit, ben voilà, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, je vais revenir, changer de vie. Changer de vie, c'était un slogan des années 70, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir sur le devant de la scène ?
Écoutez, oui, je constate, hein. Je constate que, alors on ne sait pas évidemment si ce sera des résolutions de 1er janvier ou le 2 janvier, mais je constate qu'il y a même presque une sorte d'utopie, parfois au niveau personnel, mais que ce qui est arrivé au niveau collectif, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que d'un jour à l'autre, on allait complètement changer de mode de vie, et puis qu'on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, hein.
Longtemps, c'était quand même que 2 mois. Enfin, momentanément, peut-être 3 ou peut-être 4 ou 5 avant qu'on reprenne un rythme normal, peut-être à la rentrée.
Franchement, si on nous l'avait dit le 16 mars, déjà, je pense qu'on aurait eu du mal à l'avaler. Et puis, voilà, on ne sait pas aussi ce que l'avenir nous réserve. Hein, précisément, il y a toujours, on le rappelait tout à l'heure, une forme d'incertitude. Mais en tout cas, ça a donné l'idée à certains qu'ils pouvaient changer leur vie. Et ça, je crois que voilà, il y a eu des statistiques sur les agences immobilières. Enfin, s'il y a un marché là qui semble fonctionner, en tout cas, ou des appels d'offres qui fonctionnent, c'est bien dans le domaine de l'immobilier. Et puis, effectivement, d'un coup, il y a une sorte d'ouverture des possibles pour pas mal de gens. Et si je faisais ci, et si je faisais ça? Alors que bon, on vous dit, mais c'est pas très raisonnable d'acheter une maison comme ça en pleine crise économique. Et en fait, là, comme toute crise, la crise, elle crée aussi une forme de désinhibition au niveau individuel. Alors, pas forcément pour le meilleur, hein. On a vu ce que ça pouvait donner parfois à l'échelle du voisinage, hein. Ça peut être aussi une désinhibition de la haine, mais ça peut être aussi une désinhibition des projets. La crise, elle oblige aussi à repenser ses priorités. Se dire, finalement, quelle société veut-on? On n'avait même plus le temps de se poser la question de savoir si on voulait, si l'hôpital c'était important, ou pas. Et puis pas seulement les lieux de convivialité. Est-ce qu'on préfère consommer des objets high-tech dans une jouissance un peu comme ça, idiote, chez soi? Ou bien, finalement, est-ce que les cafés, les restaurants, les lieux de convivialité, les lieux de spectacle et de culture, ça nous manque pas? Parce que on a tous pu faire l'expérience aussi à regarder des films, des opéras sur notre ordinateur, que bon, quand même, la présence d'une salle de spectacle dans laquelle on assiste à quelque chose de formidable, c'est quand même tout à fait différent d'avoir le contact avec les autres. Et donc là, tout ça, eh bien, ça rouvre effectivement des possibles. On évoquait tout à l'heure Tocqueville. C'est vrai que la question de Tocqueville, c'est d'abord où en sommes-nous? Et je crois que la question là que nous n'avons pas épuisée encore, c'est où en sommes-nous? Qu'avons-nous vécu? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre?
Et que à partir de là, il nous faudra du temps pour pouvoir le comprendre et l'assimiler, cela.
Absolument, absolument. Il nous faudra du temps. Ce qu'on vit, ça nous reste d'abord un peu opaque. Hein, c'est pas parce qu'on le vit que pour autant on le comprend.
Myriam Revaud-Nalol, dans votre livre sur la crise qui date de 2012, La crise sans fin, vous évoquiez une métaphore, la métaphore de la terra incognita. C'est-à-dire, il n'y a pas de terre ferme, il faut accepter de naviguer dans l'incertitude. Oui. Là, on est vraiment dans cette métaphore-là.
Absolument, c'est une très très belle métaphore, qui fait partie des métaphores d'un philosophe que je trouve tout à fait extraordinaire, qui est Hans Blumenberg. Et en fait, l'image de Blumenberg, c'est que nous dérivons sur la mer avec sur un bateau, et nous n'avons plus de port dans le auquel nous pourrions arriver.
De port d'attache.
Voilà, nous n'avons pas de port d'attache, nous n'avons plus de terre ferme, et nous n'avons même plus de, au fond, de port ferme sur lequel nous pourrions réparer les bateaux. Et ce que nous devons faire, au fond, dit Blumenberg, c'est d'apprendre à réparer les bateaux en pleine mer. D'apprendre à réparer les bateaux en pleine mer, c'est-à-dire, au fond, non pas simplement... Et alors, c'est une manière, ici, de se... au fond, je dirais, de se réapproprier quelque chose. Parce que l'incertitude, nous savons que nous vivons dans l'incertitude. Nous le savons depuis longtemps. Quand on a réfléchi sur la contingence, on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, on sait que nous... On sait qu'on vit face ou dans l'incertitude. Mais peut-être que s'il fallait se réapproprier quelque chose... Ce serait l'idée que nous devons vivre non pas dans l'incertitude, comme si nous étions ballottés et soumis à l'incertitude, mais vivre avec l'incertitude. Et ce n'est pas, tout à fait la même chose, parce que ce n'est pas comment dire, de l'ordre d'une passivité, ce n'est pas comme être, au fond, ballotté ou aller à la dérive sur un radeau. Et je pensais à l'entretien qu'avait donné Habermas dans Le Monde il y a quelques semaines. Et il y a une phrase d'Habermas qui dit très justement « Nous devons maintenant apprendre à vivre avec le savoir de notre
non-savoir. »
Voilà. Et j'ai trouvé cette expression très belle, hein, le savoir de notre non-savoir. Et moi qui ai toujours, d'une certaine façon, travaillé sur la question des paradoxes, du paradoxe, pas simplement le paradoxe politique, mais le paradoxe du lien social, c'est parce que, par exemple, au fond, nous avons éprouvé le manque d'un lien social sensible quand nous nous sommes trouvés confinés. Et c'est tout à fait vrai de dire que regarder des opéras à la télévision ou des spectacles de théâtre ou voir des choses en virtuel, ça n'a strictement rien à voir avec le fait, au fond, d'écouter un concert avec un public et de partager ce que j'appellerais une présence sensible.
La coprésence, comme le disent certains.
Pardon ?
La coprésence, comme le disent certains. C'est une coprésence.
Voilà. Et donc, au fond, et c'est pour ça que j'ai été un petit peu, je crois, moi aussi, j'ai assez mal vécu cette expérience du confinement, parce que je me rendais compte que, par exemple, on a souvent dit, ben oui, quand on écrit, on est confiné, mais ça n'a rien à voir. Enfin, le fait de se confiner, quand l'écriture est un mode de confinement, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de te renfermer chez soi et d'être confiné d'une certaine façon sous la contrainte. La contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a de repli sur l'intériorité possible que si la chair des autres est présente.
Ah oui, et c'est un paradoxe, mais c'est effectivement très fort.
Et c'est l'expérience de cette impossibilité que moi j'ai vécue avec beaucoup de difficultés.
Nicolas Bouzou, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il fasse partie de vos philosophes préférés, mais dans le livre que je citais tout à l'heure de Laurent Vidal, « Les hommes lents résistaient à la modernité », paru chez Flammarion juste avant la crise, eh bien cet historien, Laurent Vidal, nous dit, prend une citation d'Ivan Illich en 1973, et Ivan Illich disait quelque chose qui peut se rapprocher de ce que disait tout à l'heure Myriam Revaud-Allonne sur la différente temporalité que nous avons vécue, les différentes temporalités qu'une société peut vivre autour de ces questions-là. Il disait, il ne faut pas négliger le fait que la vitesse de pointe de quelques-uns se paie d'un autre prix qu'une vitesse élevée, accessible à tous. La classification sociale par degré de vitesse impose un transfert net de puissance. Les pauvres travaillent et payent pour rester à la traîne. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon, effectivement, de rendre compte du fait que dans une même société, eh bien, on peut avoir des temporalités différentes et que ceux qui vont très vite, induisent pour d'autres d'aller plus lentement et peut-être de ne plus jamais pouvoir aller vite.
Je ne sais pas s'il y a de tels transferts. J'adhère complètement à l'idée de cette différence de temporalité entre différents types de personnes. Je ne sais pas d'ailleurs si ça correspond à des classes sociales au sens marxiste du terme. Je ne suis pas sûr de ça, mais qu'il y ait des groupes de personnes qui vivent avec des temporalités extrêmement différentes, ça m'a semblé mais vraiment éclaté au grand jour lors de cette période du confinement, notamment où alors pardonnez-moi de schématiser un petit peu, hein, mais on évoque beaucoup la question du ralentissement. Mais vous aviez trois types de personnes, si je prends les 19 millions de salariés que compte la France. Vous aviez, j'arrondis aussi les nombres, hein, pardonnez-moi, mais vous aviez à peu près un tiers des gens qui travaillaient plus que d'habitude. Donc c'était les soignants, tous les gens qui faisaient des heures supplémentaires. Et donc eux étaient astreints à un rythme en réalité plus important qu'avant la crise du Covid. Vous aviez un tiers des gens qui étaient en télétravail. Alors là aussi, d'ailleurs, avec à l'intérieur de ce groupe des inégalités relativement importantes, parce que le télétravail, ça peut être quelque chose de formidable, hein, pour concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, mais ça peut être aussi quelque chose de très difficile à vivre quand le management des entreprises est un management qui est basé sur le contrôle. Parce que le contrôle, il se fait à distance malgré tout, et il est presque encore plus oppressant d'une certaine façon que quand il se fait au sein d'un bureau.
Beaucoup puis, de radios d'ailleurs, beaucoup de radios ont fait des entretiens et des interviews par téléphone de gens qui télétravaillaient.
Oui.
Il faudrait les reprendre les uns après les autres, ces entretiens, parce que en fait au bout du compte certains disaient ben voilà, je me lève beaucoup plus tôt pour
bien
pouvoir
sûr
faire mon télétravail avant que mes enfants soient levés, parce qu'ensuite il faut que je refasse l'école, et puis je me couche beaucoup plus tard une fois qu'ils sont tous couchés pour pouvoir finir le télétravail que m'a demandé mon entreprise. Donc c'est effectivement
absolument. C'est un vrai sujet, et pardonnez-moi d'être trop long, mais je termine juste avec mon troisième tiers de salariés. Ce sont des gens qui, eux, se sont arrêtés complètement parce qu'ils étaient en activité partielle, hein, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel. Et pour eux, en effet, d'ailleurs, c'est une situation de lenteur pour le coup, mais imposée, qui est extrêmement difficile à vivre. Moi, j'ai eu énormément de témoignages de gens qui étaient en activité partielle et qui ont subi cette période, mais d'une façon encore plus difficile psychologiquement que des gens qui étaient submergés par le travail, parce que vous avez ce changement de rythme qui est difficile à vivre, et quelque part un sentiment complètement faux, bien sûr, mais néanmoins un sentiment d'inutilité qui n'est pas justifié, mais qui peut se ressentir dans une période aussi spécifique que celle que nous avons traversée.
600 000 emplois précaires ont été détruits en 6 semaines en France, effectivement, il faut quand même le noter, et ça n'est pas rien, effectivement, dans ce contexte de différence de temps de travail, pourrait-on dire, de manière dont on vivait justement le confinement dans notre pays. Hélène Leuillet. Sur ces différences justement de temporalité, et puis aussi peut-être cette tension entre le temps intime et le temps du monde que l'on a pu noter, parce qu'effectivement cette crise intervient avec, on voit venir la vague, on entend d'ailleurs ce terme qui était là, la vague va arriver, etc., puis peut-être la deuxième vague, et donc on a cette attente du temps du monde, et puis on a un temps intime qui est bouleversé aussi, et donc cette tension, vous qui êtes, j'imagine, en tant que psychanalyste, intéressé à ces tensions entre temps intime et temps du monde, ça a été très dur, ça a déchiré certains individus.
Ah, complètement, hein, ça a donné, bon, évidemment, c'est très difficile de parler en général, il y a eu des choses très très diverses, mais je crois qu'on s'est tous rendu compte que pour ceux qui étaient à Paris, les immeubles s'ébrouaient beaucoup plus tardivement le matin. Je dirais à 7h du matin, l'ascenseur est en folie, etc. Là, tout était calme. Alors, ça ne voulait pas dire que les gens étaient en vacances et se reposaient. D'abord, bon, vous évoquez le télétravail, la difficulté de tout conjuguer, mais il y a eu aussi beaucoup d'anxiété. Ça, et ça, je pense que cette tension, elle s'est d'abord traduite par une sorte d'anxiété. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne va pas vers le dehors, quand on n'a pas le changement de lieu, hein, y a quelque chose qui devient extrêmement tendu. Et il y a même des gens qui disent « je me fatigue pas assez, j'essaie de sortir ». Mais en fait, il n'y avait pas assez l'appel d'air du dehors. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Myriam Revault-Lalonde, c'est vrai que bon, quand même, bon, moi je veux dire, la question de savoir comment j'ai vécu moi le confinement ou pas, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin, bon, je veux dire, mais quand on travaille chez soi, on a un peu une discipline avec le temps, enfin, on sait y faire avec le temps, on se lève, on se met au travail, on n'a pas de mal à se mettre au travail, on sait un peu structurer son temps. Je pense que c'est ça, dans le régime temporel que nous avions, qui était plus terrible, c'est qu'il n'y avait pas de structure du temps.
Ouais.
Donc, quand on travaille chez soi, on a l'habitude de structurer son temps, donc c'est un peu moins difficile. Mais, sur le plan social et politique, le fait que ce soit une contrainte, déjà, c'est un énorme problème. Moi, votre question, je l'entends comme ça. Si vous voulez, moi, je l'ai vécu intimement comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que bon, pour moi, ça va. Mais quand même, mettre la moitié de l'humanité chez elle pendant un temps quand même qui est assez long, qui est peut-être pas terminé, ça pose quand même sur le plan, bon, il y a la question économique, mais sociale et politique, c'est quand même un problème parce que c'est une docilité.
Et je voudrais donner la parole. On arrive. Je voudrais donner la parole. Excusez-moi, Hélène Leuillet, à Myriam Revaud-Dallone, parce que on a l'impression de dire c'est fini, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente encore aujourd'hui, les stagiaires qui cherchent des stages, les étudiants qui se demandent s'ils vont passer leurs examens, les comédiens, comédiennes, gens du spectacle qui savent qu'ils ne travailleront pas avant un certain temps. Tout cela, ça veut dire aussi que cette question de cet étirement du temps va diviser là encore la société en différentes catégories. Brièvement, s'il vous plaît, Myriam Revaud-Dallone.
Moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de savoir qu'on est dans des temps multiples. Ça, on le sait très, très bien. On ne vit pas soi-même dans la même temporalité. Chaque individu partage avec son fort intérieur des temporalités différentes, le temps du travail, etc. Et puis, tous les individus ne vont pas au même rythme. Et ce qui permet d'une certaine façon, au fond, à l'incertitude d'avoir une espèce de marge de manœuvre, c'est le fait que ça marche tant qu'il y a une espèce d'horizon de sens qui est un horizon unificateur. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, à plus ou moins long terme, les étudiants savent qu'ils auront un stage où ils ont une espèce d'idée de ce que peut être la réussite ou l'échec, dans la mesure où ça dépend de leur travail, où ça dépend même à la limite de conditions extérieures. Mais là, je crois qu'on n'est pas simplement dans une fragmentation, on est dans un processus de désynchronisation absolue, qui fait que pour reprendre la catégorie de Kozelek, je ne sais même pas si on peut parler encore d'un horizon d'attente.
Il faut citer Reinhard Kozelek. Merci beaucoup. On arrêtera avec vous sur cette citation de l'horizon d'attente de Kozelek. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallone. Merci, Nicolas Bouzou. Et merci à vous, Hélène Leuillet. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bas, Hugo Boursier, Fanny Richer et Manon Prisset à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger à la réalisation, Olivier Bétard. Demain, nous parlerons de la religion. Quelle place pour les religions dans ce temps de crise avec Gabriel Fari, Cécile Renoir et Souleymane Bachir Diagne. Et puis, je vous conseille d'aller voir du côté du site de France Culture dans la Conversation mondiale. Aujourd'hui, un très beau texte sur les États-Unis signé de l'historien américain David Bell.